Bonjour à tout le monde. Je vais juste emprunter quelque chose. Ce matin, nous allons assister à une pièce de théâtre, ou à ce qui aurait pu être une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre très forte, puissante, mais une pièce de théâtre sanglante, assez glauque, que nous aurions hésité de donner de l'argent pour aller voir. Dans cette pièce de théâtre, il y a quatre personnages principaux. Il y a un certain Jean-Baptiste, Jean le baptiseur, on va y revenir. Il y a un roi qui s'appelait Hérode, et il y a deux femmes. Une s'appelle Hérodiade et l'autre s'appelle Salomé. Voilà les acteurs, entre guillemets, principaux de cette pièce de théâtre. Alors je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Marc et au chapitre 6. Marc chapitre 6. Avant la lecture de ces textes, j'aimerais juste vous rappeler le contexte de ce qui se passe. Au début de Marc 6, Jésus est rejeté dans la ville de Nazareth. Vous savez, il y a un film « Jésus de Nazareth » et ce film s'appelle ainsi parce que Jésus venait de Nazareth. Et Jésus va dans sa ville et il est rejeté par sa famille, ses frères, ses sœurs. Il est rejeté par ses co-religionnaires, il est rejeté par ses voisins. Et les gens qui l'écoutent parler sont étonnés de voir la sagesse qui sort de la bouche de cet homme. « Jésus, disait-on, ce n'est que le fils d'un charpentier. D'où vient cette sagesse ?» Jésus, à son tour, il s'étonne aussi. Il s'étonne de l'incrédulité chez les gens qui ne veulent pas croire ce qu'il dit. Malgré l'opposition à laquelle Jésus doit faire face, il continue à parcourir les villages et les villes afin de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Pour le seconder dans cette tâche, dans ce ministère, il appelle, il forme et il mandate ses disciples pour qu'eux aussi, ils aillent évangéliser dans les villes et les villages. Pendant ce temps, le roi Hérode est interpellé. Hérode a entendu parler de cet homme Jésus, ce faiseur de miracles, ce prédicateur hors pair. Et Hérode se dit, mais c'est qui cet homme? Hérode se demande, mais est-ce que ce n'est pas Jean-Baptiste qui est mort? Est-ce que ce n'est pas lui qui est revenu à la vie? D'autres disent, mais non, il s'agit d'Élie qui est revenu sur terre. Et d'autres disent, non, Jésus, il est comme un prophète de l'Ancien Testament. Et on veut l'écouter. Hérode était perplexe. Et c'est sur ce thème qu'on arrive dans Marc 6, à partir du verset 14. Cette scène, cet événement se passe dans le palais ou dans le château du roi Hérode. Et le château du roi Hérode se visite aujourd'hui en Terre Sainte ou en Israël. Et dans les ruines de ce château, on voit au sous-sol deux donjons. Et certains guides touristiques signalent ou proposent que peut-être Jean-Baptiste était dans un de ces donjons-là, dans ce château, dans ce palais du roi Hérode. Alors, je prends ma Bible et on va lire à partir du verset 14 dans Marc chapitre 6. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre. Il disait, « Jean-Baptiste est ressuscité. C'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. » D'autres disaient, « C'est Élie. » Et d'autres disaient, « C'est un prophète comme l'un de nos prophètes. » Mais Hérode, en apprenant cela, disait, « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui. » Il est ressuscité. Et puis on a un petit flashback, un retour en arrière, à partir du verset 17. En effet, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait enchaîner en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, qu'il avait épousée. Car Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir pour femme l'épouse de ton frère. Furieuse contre Jean, Hérodiade voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas, car Hérode redoutait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, pour son anniversaire, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux personnalités de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses invités. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que demanderai-je ? » Sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa aussitôt de rentrer vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des invités, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Quand les disciples de Jean apprirent cette nouvelle, ils vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Jean Baptiste, décapité sur ordre d'une femme furieuse. Parlons de Jean. Jean Baptiste, Jean le Baptiste, Jean le baptiseur. Jean. Qui était Jean? Alors d'abord, son nom veut dire « l'Éternel fait grâce ». C'est sympathique, c'est mignon comme signification d'un prénom. L'Éternel fait grâce. La mère de Jean s'appelait Marie, pardon, Élisabeth. Et Élisabeth était cousine de Marie, la mère de Jésus. Jean était le premier prophète en Israël depuis 400 ans. 4 siècles sans prophète envoyé par l'Éternel. Et le dernier prophète, qui était aussi l'auteur du dernier livre de l'Ancien Testament, s'appelait Malachie. Jean est décrit par un ange avant sa naissance, il sera grand devant le Seigneur. Jean est décrit par son père au moment de sa naissance, il sera prophète du Très-Haut. On ne dit pas ça au sujet de n'importe qui dans la parole de Dieu. Et Jésus a même dit au sujet de son cousin Jean, il n'y a personne de plus grand que lui. C'était vraiment quelqu'un qui était assez exceptionnel. Et selon Jean lui-même, il a dit, je ne suis qu'un témoin. Je suis là pour parler de la lumière. Je suis là pour parler de l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève nos péchés. Je ne suis qu'un témoin. Malgré tout, Jean avait tout sauf la grosse tête. Jean-Baptiste. Jean était quelqu'un qui vivait selon la parole de Dieu. Il enseignait la parole de Dieu. Et son ministère était tout simplement d'appeler les gens à la repentance. C'est-à-dire à un changement de vie. Un changement de vie radical. Et pour prouver la repentance, les gens se faisaient baptiser par Jean dans le Jourdain. Jean avait beaucoup de fougue, de courage, et Jésus dit même, il brûlait et il brillait pour Dieu. Quelle bonne description d'un chrétien. Il brûlait, il brillait pour Dieu. Nous avons besoin de Jean-Baptiste dans nos églises lyonnaises, et pas que à Lyon. Des gens qui brûlent et qui brillent pour Dieu. Mais il n'y a pas que Jean, il y a Hérode. Il y a une question qu'il faut se poser, mais de quel Hérode s'agit-il? Parce que dans le Nouveau Testament, il y a Hérode le Grand, Hérode Agrippa 1, Hérode Antipas et Hérode Agrippa 2. Permettez-moi de résumer l'histoire de la famille d'Hérode, qui est aussi une famille à histoire. Hérode le Grand, on le rencontre au début de l'évangile de Matthieu. Il était le bâtisseur du temple de Jérusalem, le temple qui existait à l'époque de Jésus. Et c'était lui qui a ordonné le massacre, ce que nous appelons aujourd'hui le massacre des innocents. C'est-à-dire tous les garçons qui avaient moins de 2 ans devaient mourir dans Matthieu chapitre 2. Et vous savez peut-être que sur le calendrier, chaque année, le 28 décembre, c'est la fête des saints innocents. Ça date de Matthieu, chapitre 2. Hérode le Grand était un homme qui avait au moins 5 femmes. Une s'appelait Cléopâtre, mais ce n'était pas la Cléopâtre. Et 2 femmes avaient le même prénom, Marianne. Et Hérode avait entre 14 et 18 enfants. Hérode le Grand. Ensuite, il y a Hérode Antipas, son fils. C'est celui-ci, dans Marc chapitre 6. Hérode était fils de la 4e femme d'Hérode le Grand. Il était appelé Hérode le Tétrarque. Tétrarque veut dire souverain. Il était roi d'un quart du royaume d'Israël, la partie nord, la Galilée. Parmi ses nombreux péchés et défauts, il était adultère et il allait devenir assassin. Nous rencontrons dans ce texte la fille de sa femme, une certaine Salomé. Et en tant qu'homme adultère, bien sûr, on vient de lire, il a pris la femme de son frère, Hérodiade. Et Jean, parmi d'autres choses, a dit, tu n'as pas le droit de prendre la femme de quelqu'un d'autre. Et cette loi qui date de l'Exode 20 est toujours de vigueur aujourd'hui dans le monde, on va dire, dans le monde chrétien. Jésus avait entendu parler de Hérode et Jésus l'appelle le renard parce qu'il savait que Hérode était un homme rusé et qui voulait toujours arriver à ses fins. Ensuite, il y a le neveu de Hérode, Antipas, qui s'appelle Hérode Agrippa 1, le premier. Lui, on le rencontre dans le livre des Actes. C'est lui qui est le responsable de la persécution des chrétiens au début du livre des Actes des Apôtres. C'est lui qui a fait mourir Jacques, le frère de Jean. C'est lui qui voulait faire décapiter Pierre dans Actes 12. Mais comme vous savez, vous ne savez pas, mais Pierre a été libéré de la prison miraculeusement par un ange, et Pierre n'a pas été mis à mort à ce moment-là. Mais Hérode Agrippa I était tellement méchant que dans un meeting politique, Dieu le frappa et il est mort pendant un discours politique. Et c'est marqué, il est mort devant les invités rongés de ver. Quelle façon de mourir. Frappé par Dieu, tellement il était méchant. Ça n'arrive pas tous les jours. Mais ce jour-là, c'était son heure qui était venue. Et ensuite, il y a Hérode Agrippa II, dont on parle aussi dans le livre des Actes. C'était le fils d'Agrippa I. Et c'est lui qui avait une relation incestueuse avec sa sœur, Bérénice. Vous savez, c'est une histoire de famille, une famille à histoire. Et on le rencontre dans vers la fin du livre des Actes, acte 25, acte 26, il écoute des prédications de l'apôtre Paul, et c'est lui qui dit, je vais bientôt, ou peut-être, je vais bientôt devenir chrétien. Le mot chrétien se trouve 3 fois dans le Nouveau Testament. Et ici, dans Acte 26, il emploie le mot chrétien. Mais il ne devient pas chrétien, selon les historiens. Revenons donc à notre Hérode à nous, Hérode Antipas. Il avait envie de rencontrer Jésus. Quelques jours avant la mort de Jésus, peut-être même quelques heures, cet homme a rencontré Jésus. Il voulait que Jésus fasse un miracle. Jésus n'en a fait aucun. Il voulait que Jésus fasse un discours. Jésus n'a pas ouvert la bouche. Hérode était drôlement déçu. Et il a dit, cet homme est innocent, mais je vais quand même le faire battre par mes soldats et le renvoyer à Pilate. Jésus était comme un agneau qui a souffert en silence. Dans le texte que nous venons de lire, il y a au moins une caractéristique du roi Hérode, et c'est que Hérode vivait dans la crainte ou dans la peur. Et il avait peur à au moins 3 niveaux. Premièrement, il craignait Jean. Il savait que Jean était un homme juste et saint. Il aurait pu faire mourir Jean, mais il ne voulait pas, parce qu'il avait peur. Il écoutait Jean. Ce que Jean disait dans ses prédications, un à un, était intéressant, mais il avait peur de Jean. Il était perplexe quand il écoutait Jean. Il était gêné, embarrassé, mal à l'aise, parce qu'il savait que ce que Jean disait, c'était la vérité. Mais il craignait aussi sa femme, Hérodiade. Il est écrit dans le texte qu'on vient de lire, Jean avait été arrêté à cause d'Hérodiade. Verset 17. Une femme furieuse qui voulait la mort de Jean. C'était impossible. Mais, comme nous avons lu au verset 21, un jour propice arriva. Vous ne savez peut-être pas, mais dans la ville de Lyon, il y a pendant 17 siècles, il y avait ce qu'on appelait le tombeau des deux amants. Ce tombeau des deux amants se trouvait au pied de Fourvière. Et pendant des siècles, on disait que c'est là que Hérode et Hérodiade ont été enterrés, à Lyon, au premier siècle. Certains historiens, en fouillant un peu plus dans l'histoire, se sont rendus compte que ce n'était pas à Lugudum, ici, à Lyon, mais à une autre ville qui portait le même nom, je crois dans le Tarn. Mais ce tombeau n'existe plus aujourd'hui. Il a été démoli par le conseil municipal à cause des problèmes de circulation en 1707. Des problèmes de circulation, ça gênait la circulation en 1707. En tout cas, ça c'est une petite anecdote qui n'a aucune valeur, mais comme quoi peut-être Hérode et Hérodiade ont été quand même enterrés ensemble. Il y a Salomé. Voilà la femme furieuse. Salomé, la fille d'Hérodiade, non pas la fille d'Hérode, mais la fille d'Hérodiade. Et le mot Salomé vient de la même racine que Salomon et la Sulamite dans Cantique des Cantiques. Ce qui veut dire paisible, calme, en abondance. Ça, c'est la signification du nom. Mais dans la réalité, ce n'était pas une fille très paisible et qui n'avait pas beaucoup de paix en abondance. Troisièmement, Hérode craignait la foule. Il avait fait une promesse. Et il est écrit, il a tenu sa promesse à cause de la foule. Il a fait un serment. Même la moitié de mon royaume, je te la donne. Vous savez, c'était lors d'une fête, fête d'anniversaire. Ça a duré peut-être plusieurs heures, peut-être plusieurs jours, plusieurs soirées, et avec boisson à volonté. Vous savez, parfois on dit des choses et on fait des choses qu'on regrette. Il y a d'autres exemples dans la Bible. Esther, chapitre 1, le roi Assuérus a fait des promesses idiote. Daniel 5, Belshazzar, à cause de la peur, a fait une promesse pas possible à Daniel. La peur nous fait faire des choses ou dire des choses. Le résultat des courses, il est écrit aussitôt. Salomé s'empressa de demander à maman, que dois-je demander? Alors, il est toujours bon qu'une fille demande conseil à sa mère. Il ne faut pas toujours écouter les conseils. Surtout si la mère lui dit, je veux la tête du prédicateur. Oh, pardon. Je veux la tête de quelqu'un. D'ailleurs, vous savez, il y a l'expression française, donner quelque chose sur un plateau. Ça vient d'ici. Hein? Servir quelque chose ou quelqu'un sur un plateau. Bon, bref. Elle demande la tête et sur le champ, Hérode envoie un soldat pour décapiter Jean. Voilà, un des hommes les plus puissants de la planète, troublé par un prédicateur, troublé par une femme, troublé par une jeune fille qui demande la tête du prédicateur. Hérode s'est laissé piéger à cause de sa promesse, à cause de son orgueil et à cause de son péché. Piégé. Comment m'en sortir? Ah ben, le résultat était de demander la tête de Jean-Baptiste. Alors, comment conclure cette histoire? Eh bien, Jean me fait penser à certains chrétiens que je connais. C'était un témoin. Il parlait de Jésus. Il ne parlait pas 24 heures sur 24, mais il parlait de Jésus. Il parlait de la lumière. Il parlait de l'agneau de Dieu. Il parlait de l'importance de la conversion, de la repentance, de la foi. Jean aussi, il ne se considérait pas le centre de l'univers. À tel point qu'il a même dit, il faut que Christ croisse et que je diminue. Autrement dit, il faut que Jésus devienne de plus en plus important, grand, et moi de moins en moins important, de plus en plus petit. Ça, c'est une bonne attitude d'avoir. Et puis Jean était quelqu'un qui était prêt à porter sa croix en tant que disciple. Certains chrétiens sont comme ça. Je ne dirais pas tous les chrétiens, même si tous les chrétiens devraient être comme ça. Être un témoin, parler de Jésus, parler de la foi, se considérer comme un rien entre les mains de Dieu et aussi quelqu'un prêt à porter sa croix, prêt à souffrir pour le Seigneur. En ce qui concerne Hérode, il me fait penser à d'autres personnes. Il me fait penser à certains non-chrétiens. Je m'explique pourquoi. Il y a des non-chrétiens qui aiment bien venir dans une église évangélique, qui aiment bien écouter les prédications, qui aiment bien écouter les prières, qui aiment bien chanter des cantiques, mais qui ne veulent pas se positionner par rapport à la foi, par rapport à Christ, par rapport à sa mort sur la croix. Pour Hérode, ce n'était pas désagréable d'écouter Jean, même s'il était un peu troublé, perplexe parfois. Mais en écoutant Jean, Hérode restait insensible. Sa conscience, certes, était troublée. Ses sentiments étaient troublés. Son intellect, son intelligence avait compris le message. Mais sa volonté ne s'est pas engagée. Il n'a pas dit, je veux me repentir, je veux me convertir. Il y a des non-chrétiens comme ça qui, année après année, viennent au culte et qui refusent de s'engager. Et puis, Hérode me fait penser à certains chrétiens. Pourquoi? Eh bien, parce que ces chrétiens-là, ils aiment bien venir au culte. Ils aiment bien écouter les prédications. Ils aiment bien écouter les prières, ils aiment bien chanter les cantiques. Mais parfois, certains chrétiens, ils ont un ou des péchés auxquels ils ne veulent pas renoncer. Ces péchés peuvent être des vices secrets. Personne ne connaît. Enfin, on pense que personne ne connaît. Dieu connaît, Dieu voit. Et parfois, il y a des secrets qui sortent. Mais ces chrétiens-là, ils écoutent ce qui se passe dans une église. Et parfois, Dieu met le doigt sur quelque chose dans leur vie. Mais ces chrétiens-là, tout comme Hérode, ne veulent pas plier le genou. Ils veulent donner à Dieu 95% de leur vie, mais garder 5% pour eux-mêmes. Ces chrétiens-là ne vont jamais pleinement s'épanouir ou être utiles entre les mains de Dieu, sauf s'il y a une véritable repentance. Il y a un verset dans le nombre des nombres, le livre des nombres, nombre 32, 23. Hein? 3, 2, et puis 2, 3. Sachez que votre péché vous retrouvera. Et avec des péchés secrets, tôt ou tard, ça va sortir. D'où l'importance de vivre dans la repentance et dans la pureté. Donc, pour conclure, ce matin dans cette salle, je dirais que on ressemble tous à un de ces trois cas de figure. Est-ce que nous sommes des chrétiens zélés? Est-ce que nous voulons brûler et briller pour Jésus? J'espère, parce que nous avons chanté tout à l'heure. Je veux encore briller pour toi. C'était un chant qu'on a chanté tout à l'heure. Ou alors, peut-être nous sommes des chrétiens et on vit dans le compromis. On ne veut pas renoncer à certaines habitudes, à certains péchés. Ça arrive. Et à ces gens-là, je les invite à voir cela avec le Seigneur et si besoin, avec un ancien, avec un frère ou une sœur dans l'Église. Et puis il y a d'autres qui ne sont pas encore convertis. Et encore, Geoffrey a touché ce sujet-là tout à l'heure. Et qui connaissent l'Évangile, qui comprennent l'Évangile, mais qui ne veulent pas se détourner de leur ancienne vie pour se tourner vers le Seigneur. À ces trois catégories de personnes, je n'ai qu'une chose à dire. Et c'est un verset qui vient, se trouve plusieurs fois dans la parole de Dieu. Si aujourd'hui, vous entendez sa voix, la suite, n'endurcissez pas votre cœur. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions car tu vois les cœurs, tu sondes les cœurs. Tu connais le cœur de chacun. Tu connais les chrétiens qui sont zélés. Tu connais les chrétiens dont le cœur a un peu pris un coup de froid et on a besoin que tu nous réchauffes le cœur de nouveau. Tu connais ceux qui gardent quelque chose dans leur vie qui ne te plaît pas. Et tu connais aussi nos amis qui ne te connaissent pas, les membres de nos familles parfois aussi. Seigneur, nous te prions de te révéler à chaque catégorie, à chaque personne comme cela, et de leur montrer ton amour, ta patience et ton pardon. Et nous te prions pour nous tous, que chaque fois que nous entendons ta voix, aide-nous à ne pas fermer notre cœur, à endurcir notre cœur, mais à ouvrir notre cœur pour te dire oui, prends tout, Seigneur. Nous te le prions au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen.
Eh bien, il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche. Soyez bénis dans cette nouvelle semaine.